Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Brive-la-Gaillarde, par exemple, au 6 rue Gambetta sur 97.8. Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Facebook et Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu dominical qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Mathieu Lacourvérane, propriétaire de la cidrerie du même nom. Nous serons au cœur du Perche, une très jolie région, et puis le Vino Quiz pour gagner 2 places pour le WST, le premier salon mondial de l'œnotourisme et des spiritueux qui va se tenir à Reims. Ça sera du 12 au 14 mars 2023. Et pour gagner les places, il faudra les jouer sur invinoradio.tv. À mes côtés aujourd'hui, Hélène Piau, comme hier d'ailleurs, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Ainsi que Philippe Orbach, qui est président de la sommellerie française notamment. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Pour bien commencer cette émission, on a le plaisir d'accueillir Wendy Gobi, propriétaire du château Saint-Pierre de Meugent. Bonjour Wendy.
Oui, bonjour.
Alors racontez-nous, avant de venir vigneronne, vous avez fait plein de choses, hein?
Oui, un peu.
Vous avez fait quoi alors?
qu'est-ce qu'on a fait? En fait, avec mon mari, on gère toujours 3 écoles internationales.
Dans
une grande école bilingue, biculturelle.
Où ça, basée en France?
Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence, ouais. D'accord.
Et aussi à Marseille et aussi à Montpellier.
D'accord. Et alors, comment on fait pour passer de la formation au vin?
Donc, en fait, c'est une histoire en coup de cœur. Donc, on habite pas loin de ce domaine dans le Luberon. Un jour, je suis tombée sur l'annonce de ce château qui est un ancien prieuré du 2e siècle. Avec mon mari, on est passionnés d'histoire, d'art et de vin. Et on a décidé de visiter le château, mais sans penser qu'on allait lancer un nouveau projet. On a eu un vrai coup de cœur parce que c'est un lieu qui était fermé pendant 50 ans.
50 ans fermé.
Bon, il y a une famille, donc c'était assez privé. C'était pas, c'était pas un bon état. Mais le vigneron, ça fait 27 ans que le vigneron est là. C'est sa famille qui était propriétaire de lieu. Mais les parents sont morts, donc il n'y avait pas les autres frères et sœurs qui étaient prêts à mettre...
De l'argent, voilà,
voilà. Donc nous, on a décidé de garder le vigneron. Bon, on a eu un coup de cœur lors de cette visite. Donc,
incroyable. Et c'était quand, ça? Il n'y a pas très longtemps. Hein.
Non, on a visité en fait fin 2020 et on a signé avril 2021. Donc, on a fait 1 an de travaux, forcément, pour la cave, pour le château.
Vous êtes basé où exactement, alors, vous dites, précisément?
C'est à Puyvert, le château Saint-Pierre de Meugent. C'est à Puyvert, juste à côté de Loumarin. Ouais. Donc, c'est dans le Luberon. C'est vraiment un coin super joli. Avec le potentiel était là, on va dire. Le vin était bon sans moyens parce que dans la cave, il n'y avait pas les ceintures à froid, il n'y avait pas de pressoir qui était à jour. Donc, à l'époque, il faisait un rosé saigné.
Rosé saigné, Philippe Orbach, qu'est-ce que c'est?
C'est une technique qui permet d'obtenir un rosé avec une macération courte de raisins. Je vous rappelle que pour faire du vin rosé, il faut des raisins rouges essentiellement.
On ne mélange pas du blanc et du rouge, c'est pas
on
ça?
On peut mélanger du raisin blanc et du raisin rouge, c'est souvent le cas d'ailleurs en Provence. Mais on peut pas mélanger les vins, mais par contre on peut mélanger le raisin, c'est-à-dire avant fermentation. Et ensuite saigner, c'est juste on ouvre la cuve dans la partie basse pour pouvoir extraire le jus qui est à peine coloré et ensuite il fermente.
Hélène?
Alors effectivement, Wendy le disait, énormément de travaux à votre arrivée, parce que tout était à faire. Les 13 hectares de vignes et puis 20 hectares en tout, donc ça veut dire qu'il y en a 7 pour se balader?
En fait, on a 100 d'oliviers. Donc, bon, sur la propriété, on fait l'huile d'olive, on fait aussi l'essence de lavande. On a du miel, mais qui est mélangé avec nos ruches qu'on avait chez nous. Après, il y a aussi le domaine qui fait qu'il y a un grand parking pour les tours. Bon, qu'on a créé.
Avec 4 hectares de parking.
Non. Et c'est vrai qu'il y a un grand jardin. Et bon, l'avantage, c'est que tout était à faire. Donc, on a fait l'entrée, on a fait. En fait, les
vous avez
pavés...
beaucoup investi.
Oui. On voulait donner l'âme, tout simplement. Sûr, c'était un lieu qui
méritait. Et vous avez appris le vin comment, là? Parce que ça ne s'improvise pas, le vin, même
oui,
si on écoute assidûment.
Oui, bien sûr. Déjà, on a gardé le vigneron, donc on n'allait pas... Moi, j'ai commencé... moi, j'étais à San Francisco avant de venir en France, donc j'avais pas mal d'amis qui étaient dans le vin, et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait toujours. Mais j'ai commencé avec le WSET... fameux. Après, je suis allée à Suze-le-Rousse. J'ai suivi...
très grande école du vin. Absolument. Dans la vallée du Rhône.
Exactement, l'université du vin. Et j'ai fait un diplôme d'onologie qui était assez difficile pour moi parce que la chimie et la biologie en français...
Oui, en plus
c'est
en
vrai
français,
que ouais. Même en anglais, c'est difficile, mais en français, c'est vraiment
donc,
très
bravo,
difficile.
Donc bravo, félicitations alors.
Et après, bien sûr, on a un onologue qui nous suit. On a le vigneron qui... Bon, depuis 27 ans, suit le domaine. Donc, voilà, je compte sur eux aussi. Voilà.
Donc, ce sont eux qui vous conseillent. Qui vous ont conseillé pour tout ce que vous avez mis en place, donc agrandissement de la cave, nouveau pressoir, vous en parliez tout à l'heure, effectivement. Ouais. Voilà, et puis installation d'un circuit de froid, puisque on le souligne régulièrement avec les vignerons qu'on invite, c'est de plus en plus nécessaire, surtout chez vous là en Provence.
Mais oui, tout à fait. Lui, il servait en fait d'un ruissel. Au début, oui, qui fait les...
Bon, d'accord.
C'était assez compliqué. Donc, c'était la première chose. Et aussi, on a décidé tout de suite de le mettre en conversion
bio.
Ouais.
Ben, le ruissellement, c'est terrible pour la consommation d'eau. Hein.
Exactement.
Ouais,
Exactement. Bon, c'était avant
c'est
nous.
C'est une efficacité relative.
C'était notre époque, on va dire. Voilà.
Bon, ça y est, c'est fini.
Ça,
donc,
c'est fait. Voilà. C'est bonne nouvelle.
Non,
voilà.
Ça, c'est absolument.
Venons-en à vos cuvées, justement. Alors, celles qui sont vendues en ce moment, c'est les cuvées 2020. Donc, ce ne sont pas encore vraiment les vôtres. Ce n'est pas encore celles...
2021 aussi.
Ah, ouais. Ça y est, 2021 ouais. commence ouais. à être commercialisé ouais, ouais. aussi.
Et on vient de mettre en bouteille aussi un blanc qu'on a décidé de faire, un blanc en feu de chêne, mm-hmm. qui est élevé depuis 10 mois. Et c'était notre idée. On a fait... Bon, déjà, on a changé toutes les étiquettes. On a donné une autre direction parce qu'on a décidé de faire plus de blanc. Avec mon mari, on adore le blanc et c'est vrai que dans le Luberon...
Les blancs sont excellents, Philippe.
Absolument. Hein, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est une terre à blanc.
Oui, ouais. moi aussi.
À la
aussi.
Fois pour la géologie, mais aussi parce qu'il y a les contreforts justement du Luberon qui apporte de la fraîcheur. Je pense que l'avenir... On a l'image du rosé en Provence et dans le Luberon aussi. Des rouges, bien entendu, c'est historique.
Il y a des très grands blancs. Hein.
Mais les blancs, vous avez quoi comme cépage en blanc?
Donc en fait, oui, donc, on a un rôle, bien ouais. sûr, c'est ouais. la majorité. Après, on a grenache blanc, viognier un peu. Ouais. Et on vient de planter aussi de la roussanne, parce que j'adore la roussanne. Et mon rêve, c'est d'avoir la marsanne aussi. Parce que,
alors ça va venir, ça aussi, ça va arriver. Quoi. C'est
un peu de temps. Alors, ça fait un an. Donc.
Pour le moment, il y a une seule cuvée de blanc.
Et le deuxième qui vient de sortir, qui était en feu de chêne. On a un blanc qui est en inox, qui est aussi rôle grenache blanc et viognier. Et le deuxième qui, en fait, on vient de mettre en bouteille, mais qui n'est pas encore à la vente.
Et l'environnement, là, tous les vignerons de la région, ils vous ont encouragé quand ils vont vous arriver? Une américaine, formation, néo-vigneronne on l'aime, on l'aime pas. Ils ont été gentils avec vous.
Et ceux qui sont sympas, même, voilà.
Bien sûr. Ah ben c'est ce que disent toutes les femmes et tous les hommes. Ceux qui sont sympas nous aiment.
Est-ce
voilà.
que Ridley Scott est venu me voir?
Pas encore. J'attends qu'il vienne me voir. Mais moi, je suis allée voir son domaine.
Son domaine. Quoi. Est-ce que vous vendez
après,
vos
après à Cluny maintenant
Vous vendez vos vins aux États-Unis, en Amérique ou pas?
En fait, ce qui est drôle, c'est au moment de visiter ce domaine, en parlant avec le vigneron au moment où on était en train de décider, il avait un seul importateur. Et par hasard, c'est dans ma ville natale.
Oh, c'est génial. Vous êtes né où?
Houston.
À Houston.
Au
ah,
Texas.
Oui. Incroyable.
C'est le destin. C'est le destin. Donc, on vend aux États-Unis, mais pour le moment, que dans le Sud.
Oui.
Et bien sûr, je souhaite
développer, bien
oui,
sûr.
Oui, bien sûr.
Mais ça veut dire que votre famille aux États-Unis connaissait le vin avant vous, peut-être?
J'ai dit à ma famille, j'ai dit à l'importateur, ça va vendre avec ma famille, ne vous inquiétez pas. On va augmenter les...
Bon, en tout cas, c'est une belle histoire. Hélène?
Et puis, comme vous êtes dans le Luberon, il y a bien sûr du rosé aussi.
Oui.
Vous avez deux cuvées de rosé.
En fait, pour l'année prochaine, une seule. Voilà.
D'accord.
On a décidé de réduire un peu la quantité de rosé parce qu'avant, il faisait 70% de rosé.
Ah oui.
C'est vrai qu'on voulait équilibrer ça plutôt à 60 ou 55%, comme le Luberon. Hein. D'ailleurs, le Luberon, c'est plutôt 54-55% par rapport à... Et surtout plus de blanc.
Et alors, avec le blanc, vous nous conseillez quel type de plat? Est-ce que vous aimez cuisiner déjà?
Oui, mais bon, bien sûr.
Ça, mais c'est bien, bien sûr, sûr. C'est, oui. Nous prenons note.
Oui,
avec Philippe,
je suis pas venue en France sans cuisiner. Bon, maintenant qu'on a le doux blanc, bon, le blanc qui n'est pas en fût de chêne, c'est plutôt crustacé. Il est très frais et fruité, apéritif. Et le blanc en fût de chêne, bien sûr, c'est plutôt un repas, c'est plus gourmand. C'est une jolie longueur, poisson noble, ce genre de choses.
Et puis tous les plats sympas de Provence, tu vois, dès qu'on met un peu de thym et de farigoulette, là, tout de suite, avec le blanc, ça marche très très bien.
Ça marche, les ratatouilles aussi, c'est bon ça.
Oui, absolument. Vous avez faim, là, on sent que l'heure du déjeuner approche, là. La façon dont vous avez dit ratatouille avec les yeux qui pétillent, là, on sent que c'est votre truc, la ratatouille.
Bon, allez, concentrez-vous sur notre invité, Wendy.
Alors, pour le moment, nous qui ne sommes pas à Houston, Texas, on peut les acheter où et à quel prix, alors, ces vins?
Donc, déjà, au château, sur le site internet, on a aussi... bon, il faut dire que le côté commercial, on était tellement dans tout ce qui était rénovation que c'est à partir de là où on est en train de développer, vraiment. On a bien sûr autour du château, mais au niveau prix, donc le blanc rosé à 10 euros, on a un rouge à 10 et un autre, une vieille vigne qui a c'est le Carignan de 40 ans et ça c'est à 18 euros.
Ouais, c'est quand même très raisonnable, ouais. Un très bon rapport qualité-prix.
Vous avez d'ailleurs refait aussi les étiquettes parce
oui.
que voilà, tout le packaging, alors, on les boit pas les étiquettes, mais c'est quand même sympa d'avoir
oui.
une bouteille sur la table.
Oui, et le rosé, en plus, on a changé le nom, on a pris l'année de la construction du château qui est 1118. Donc on voulait vraiment mettre en avant l'histoire du château parce que les gens ne le connaissaient pas.
Absolument,
bien sûr que
ouais.
c'était fermé. Donc maintenant on fait des visites guidées du château avec l'histoire des Templiers parce qu'il y a des signes templiers. Il y a la chapelle qui date du IIe siècle, une partie qui était cassée, bon, fondue dans le tremblement de terre de 1909 à Lambesque.
Donc vous êtes à fond sur le tourisme avec des jolies histoires à raconter.
Oui,
quoi.
Tout à fait. On fait aussi des mariages, des fêtes, mais bon.
On peut privatiser pour un mariage ou un divorce,
oui,
c'est possible.
Oui, parce qu'on a rénové avec cinq chambres pour faire chambre d'hôte, un appartement. Tous ont un nom d'un cépage, deux domaines. Donc, on a aussi un mât, deux piscines. Ouais. C'est vraiment
bon,
un domaine.
Il faut y aller. Hein, c'est ouvert quoi, toute l'année. Vous êtes aussi souriante en vrai là-bas qu'ici là.
Toute l'année.
Bon, en tout cas, c'est un vrai bonheur, c'est une belle aventure. Il y a un site internet, une adresse pour prendre enseignement
oui,
sur tout ça.
Oui, tout à fait. Donc, c'est www.saintpierredemejean.com.
Merci beaucoup Wendy, merci également Philippe
merci.
Et Hélène, on se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler où? À Reims, ça sera du 12 au 14 mars. À Reims, à tout de suite.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Brive-la-Gaillarde au 6 rue Gambetta sur 97.8. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end et vous pouvez également aller visiter le compte Instagram Invino Sud Radio. On retrouve Philippe Fourbraque, Philippe et le Vino Quiz.
Et oui, bon dimanche à tous et je vous rappelle le principe de notre fameux Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST, International Trade Fair, le mondial de l'onotourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Voici la question de ce week-end. Deux points. Où se situe le chai Sainte-Olive, dont Grégoire Sainte-Olive est le cofondateur? Réponse A à Lyon, réponse B à Milan, ou réponse C à New York?
Tac, 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 tac. Oui, il faut réfléchir, il faut écouter les émissions en podcast
voilà.
notamment. Quoi.
En tout cas, pour répondre, et on vous le souhaite, avec gagner deux places pour le WST International Trade Fair, le mondial de l'onotourisme et des spiritueux qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Rendez-vous toute la semaine sur le site invino.radio.tv, rubrique Vino Quiz. On vous souhaite d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Philippe Fourbraque. Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir et de retrouver quelque part, car il est déjà venu à bord de Invino il y a quelques temps, il y a 12 mois, Mathieu Lacour-Vérin. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté, il paraît que c'est le vélo qui vous a motivé à embrasser le cidre dans le Perche.
Oui, tout à fait, oui. J'avais fait un périple de 3 mois, mais j'ai fait un tour de France
Vous êtes parti d'où? Vous êtes arrivé où?
Eh ben alors je suis parti des racines controversées du cidre depuis le Pays Basque, et donc j'ai fait toute la côte, j'ai remonté en passant par la Bretagne, la Normandie, jusqu'à la baie de Somme, et puis je suis passé par Troyes, et puis j'ai terminé par le Perche qui était déjà...
Mais et pourquoi faire ça là? Il y avait un chagrin d'amour, un burn-out, qu'est-ce qui s'est passé dans votre ville?
J'étais parisien à l'époque, donc oui, il y avait une envie de prendre le verre.
Il y avait tout en même temps, quoi.
Combien de kilomètres au total?
Eh ben près de 3000.
3000 voilà. Bornes à vélo, c'est dingue ça. C'est... Voilà. Vous avez mis donc 3 mois.
3 mois avec ma tante, mon réchaud.
Mais votre tante était avec vous.
Oui, c'est bien.
Ça fait chauffer le pilote.
Et alors, vous avez rencontré 33 producteurs, c'est ça?
Exactement, voilà. Et qui en fait m'ont un peu empêché de dormir sous la tente parce que j'ai eu un excellent accueil partout. Et donc, c'est surtout une richesse, une diversité de savoir-faire que j'ai pu embrasser et qui a été vraiment très agréable. Voilà.
Hélène, je sais que c'est votre chouchou, hein, je vous en prie.
Ah ben moi, je suis fan de cidre en général et c'est vrai que j'aime beaucoup celui de Mathieu. C'est vrai. Enfin, faut reconnaître. Donc, effectivement, vous étiez venu nous voir, nous raconter toutes ces grandes lignes, puis nous raconter que sur le millésime 2020, vous aviez ramassé 10 tonnes à la main. C'est quoi les prévisions 2022?
Eh ben, j'ai ramassé du coup en 2021 15 tonnes, donc c'était l'objectif était d'augmenter un peu. Et alors maintenant je suis bloqué, c'est-à-dire que j'ai plus de place dans ma cave pour mettre les bouteilles.
Ah bon?
Donc je vais devoir me stabiliser. Donc un objectif entre 10 et 15 tonnes encore.
10 et 15, mais vous dopez vos pommiers ou
quoi? Non, bah en fait je travaille avec le parc naturel et donc j'ai une ressource en verger qui est assez importante puisque aujourd'hui les producteurs, anciens producteurs, paysans à la retraite, etc., peuvent plus vendre les pommes à la coopérative locale. Donc on a aujourd'hui un problème d'abandon des vergers et donc je travaille avec le parc pour faire des contrats de prêt à usage. Donc je ramasse les pommes en échange de quoi je fais l'entretien des vergers.
Et vous nettoyez tout ça quoi.
Voilà, défrichage.
Bah c'est bien, c'est un bon deal. Hein.
Ouais. C'est gagnant, effectivement.
Donc j'ai beaucoup de pommes.
Et qu'est-ce qui bloque pour la vente justement aux coopératives?
Non, c'est que la coopérative ne prend plus les petits volumes en fait. Donc tous les petits producteurs, donc c'est-à-dire des gens qui avaient un hectare, 5, 6, 10 tonnes.
Ouais, c'était pas rentable, c'était trop compliqué à gérer quoi. Okay. Voilà. Et alors vous, comment ça se passe? Alors votre cidre, pourquoi est-ce que c'est le meilleur du monde?
Ah bon, j'aurais pas cette prétention-là, pas du tout. Non, bah, alors c'est un site qui me plaît bien déjà, donc ça c'était l'objectif de la première.
Vous êtes
année.
Où dans le Perche déjà? Parce que c'est grand le Perche sur cette belle région.
Eh bien, au cœur du Perche, donc les vergers sont entre Bellem et Rémalard, et la cidrerie est à Bellem, donc lieu un peu emblématique, touristique.
Avec un joli golf aussi.
Oui, voilà, exactement.
Très jolie ville.
Voilà, qui se visite beaucoup. Donc je bénéficie de ce terroir qui est un petit peu tardif, qui me permet de travailler un peu différemment les cidres que dans d'autres endroits de France. Et en témoigne l'AOP du Perche qui a été validée au mois de juin dernier.
Enfin, après... Bravo, félicitations.
Oui, bah, merci.
Il y a combien d'AOP dans le cidre en France?
Eh bien, il y en a 4. Donc, il y a le cidre de Cornouailles, Pays d'Auge, Cotentin, et puis maintenant, le cidre du Perche.
Et ça permet quoi? De vendre plus cher? D'affirmer une identité? C'est quoi?
Alors, pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que j'étais déjà dans une démarche un peu de monter en gamme du produit. Donc, je fais un travail en ramassage à la main et maturation des pommes derrière. Donc, j'étais déjà sur des produits qui aujourd'hui sont haut de gamme pour du cidre. Pour les producteurs actuels, enfin qui ont travaillé pour cette AOP, je pense qu'ils vont pouvoir augmenter légèrement le prix de leur bouteille.
Bien.
En fait, c'était surtout une consécration de montrer que le Perche était un terroir. Et puis, il y a une démarche collective qui est très forte. Il y a une très bonne entente entre les producteurs. Donc, tout se fait ensemble. Et donc, c'était aussi mettre un mot sur ce travail collectif qui...
Philippe Forbach, vous qui connaissez bien l'INAO très très bien, il y a beaucoup de vignerons, de vignobles en France qui souhaitent accéder au Nirvana, là, à devenir AOP?
Alors au niveau des vignerons, le sujet est cerné depuis longtemps, même s'il y a toujours des évolutions. En termes d'INAO, il n'y a effectivement pas que la vigne, puisque là on parle de vergers, de pommiers et de production de cidre. Et là effectivement, il y a peut-être plus de défrichage à faire, ou en tout cas de volonté de s'affirmer. Obtenir une AOP, c'est d'abord un travail collectif.
Absolument.
C'est la mise en valeur d'un terroir et d'un savoir-faire. C'est aussi l'affirmation d'une marque collective qui va faire en sorte qu'il y ait une sorte de label, c'est un label, hein,
ouais,
aussi, avec un cahier des charges précis. Et du coup, une valorisation à la fois de la production et du foncier. Donc c'est quand même un engagement fort et un gain quelque part. Moi, j'ai discuté avec quelques producteurs de cidre du Perche, notamment du côté de Rémalard. Certains ont dit, mais nous, on n'a pas adhéré au système parce qu'il était trop contraignant, parce qu'on a toujours fait comme ça et qu'on a notre clientèle, etc. Donc c'est bien, en même temps, c'est pas une obligation. C'est une démarche personnelle.
Non, mais je trouve ça toujours intéressant parce que ça, ça dénote quand même des particularités locales. C'est la reconnaissance de particularités locales. Et effectivement, pour ce qui est du cidre du Perche, c'est par exemple celui qu'on récolte le plus tardivement. Il est assez fréquent dans le coin qu'à Noël, il y a encore des récoltes de pommes. Il y a une fraîcheur en attaque. Les degrés d'amertume ne sont pas toujours les mêmes d'une appellation à l'autre. Et c'est sympa de reconnaître que sur un terroir,
Il y a des spécificités réelles. Combien de producteurs vous êtes ?
C'est pas le même que dans le Cotentin ou ailleurs.
On est 7 producteurs. Donc
7 producteurs.
Voilà, c'est dynamique parce qu'il y en a déjà qui partent à la retraite, qui transmettent.
C'est dynamique parce qu'ils partent à la retraite ?
Il y en a qui ont, donc on a mis 20 ans à obtenir l'AOP. Et donc, effectivement, il y en a qui ont.
Est-ce que vous avez fait une grosse fête quand vous avez obtenu l'AOP ?
On a fait une fête.
Il y avait une fête ou une petite fête ?
Bah, pour l'AOC, petite fête parce que c'était encore des temps Covid. pour l'AOP, on souhaite faire quelque chose de gros. Et donc, ça va notamment se traduire par les fêtes du cidre qui sont là à l'automne. Et donc, ce sera
l'automne. Ah, racontez-nous, c'est quand la fête du cidre ?
Et bah, c'est le dernier week-end d'octobre.
D'accord.
Voilà, dans chaque cidrerie, enfin, pour ceux qui souhaitent y participer.
Donc, pour les 7 qui vous concernent, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Et donc, c'est accueil avec des animations. Donc, il va y avoir de la presse de pommes, on va ramasser les pommes et des démonstrations de distillation aussi, puisque c'est un terroir et un territoire de Calva.
C'est très sympa. Donc, c'est la journée mondiale de la pomme du Perche.
Voilà, tout à fait.
Et du cidre du Perche.
Tout le monde est convié.
Vous faites venir les gens pour qu'ils cueillent vos pommes parce que vous avez la flemme de les cueillir vous-même.
Enfin, genre, et les enfants sont les bienvenus, ils peuvent travailler.
Qu'est-ce que c'est que cette arnaque
Je suis le seul à ramasser les pommes, donc si vous venez me voir, vous avez ce risque-là chez les autres.
C'est vrai. Marc et Hélène, le pommier, vous n'allez jamais l'atteindre aussi.
Et non, d'autant plus qu'ils travaillent avec ce qu'on appelle des pommiers à tige haute. Oui, donc effectivement, ils sont trop
gros. Vous avez quelques échelles là, parce qu'on en a besoin.
Des échelles. Alors je vous rassure, je ramasse tout au sol parce que je cherche la maturité.
Alors au sol, ça va aller, Hélène.
Au sol, ça va.
Il faut secouer le pommier ou ça tombe.
J'ai même certains avantages.
J'attends que ça tombe. L'objectif, et ensuite je mets en sac et je fais encore maturer derrière les pommes. L'objectif est de travailler vraiment sur les
tanins. Et combien de temps ça mature ?
J'essaye de faire 3 semaines. Alors après, c'est un peu la limite, la charnière après lesquelles trop de pommes commencent à être abîmées.
Oui. Votre cidre, là, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique ? Parce que le cidre, quelque part, c'est un produit qui est un peu banal, alors que le vôtre, il est très original. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique ?
Alors, mon cidre est dans la typicité du cidre du Perche, et sa typicité est d'être très équilibré, avec une attaque plutôt acide, assez rond en bouche, et puis une longueur en bouche amertumée derrière. Donc, on est vraiment sur les 3 saveurs. Donc
Philippe, on peut comparer le grand vin avec le grand cidre ?
Bien entendu. Et en termes de vocation gastronomique, c'est super intéressant aussi, parce qu'on imagine toujours le cidre avec une crêpe.
Oui, les crêpes, une petite tormente, une bretonne, la coiffe, tout ça.
Or, le cidre sur des volailles, le cidre sur du camembert, le cidre sur du poisson, le cidre sur, bien sûr, des desserts, etc.
Sur des huîtres.
Ça fonctionne très bien, y compris des huîtres. Et d'ailleurs, on met de plus en plus des huîtres avec une petite émincée de pommes vertes, par exemple. Ça marche très bien.
Oui, absolument.
Et là-dessus, un bon coup de cidre.
Mais oh là 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 là. Ça titre combien, le cidre ?
Eh bien, ça dépend du coup des fermentations qu'on va faire. Donc, on est autour de 5 degrés globalement.
Ouais, ça va, c'est bien.
Sur les cidres les plus doux, on est autour de 3,5. Et puis, maintenant, ça se travaille beaucoup en extra brut. Donc, on va être sur des cidres qui sont plutôt autour de 7-8%.
7-8%, donc c'est raisonnable.
Absolument. J'en profite pour faire un clin d'œil à Benoît Marignos, qui a ouvert la cidrerie à Paris il y a déjà 2 ou 3 ans, et puis qui vient d'en ouvrir une deuxième dans le 17e arrondissement.
Donc, il n'y a que du cidre.
Il n'y a que du cidre. Disons qu'il y a 95% de cidre. Il a un nombre de références absolument insensé. Les endroits sont très sympas. Donc vous trouvez ça sur Internet. Ça s'appelle La Cidrerie. Et surtout, je lui fais un clin d'œil parce que c'est lui qui m'a mis le premier en main un verre de chez Mathieu.
Donc c'est vrai.
C'est lui qui m'a fait découvrir les vins de Mathieu à Conveyrane.
Les vins, le cidre.
L'absus.
C'est logique.
Combien ça coûte une bouteille de cidre chez vous ? Parce que là, on parle un petit peu de sous quand même, Mathieu.
Eh bien, alors moi, je fais 2 formats. Donc, je fais de la 33 et de la 75. Et donc, on est autour de 4 euros pour la 33 et 12 pour la 75.
Et on peut commander sur Internet ? Il y a un site où le prix du transport est trop prohibitif ?
Le prix du transport est assez prohibitif. Mais aujourd'hui, je commercialise dans tout ce qui est Perche, Paris. Puis, j'essaye d'attaquer un peu les grandes villes. Lyon, Bordeaux.
Vous êtes tout seul à bosser dans le.
Tout seul à bosser. Enfin, ma femme m'aide beaucoup. C'est 1,5 2 millions non déclarés.
Pas de mal des femmes parce qu'elle va dire toute rouge, là, Hélène. Pour l'instant, elle est parfaite. Là, c'est... Bon, Philippe, un dernier mot.
Vous pouvez vous voir sur place ?
Oui.
Bien sûr. Bah, ouais,
c'est, octobre, voilà, déjà.
Je vous invite même à venir. Comme ça, c'est l'occasion un peu pour moi de vous expliquer le terroir, donc tout ce qui est pédologie, étude des sols, etc. Le climat un peu tardif du Perche. Et puis, bien sûr, les cidres avec une dégustation.
C'est noté. C'est noté. Donc, c'est le 30 octobre pour la journée porte ouverte, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Donc, les 7, on peut trouver, il y a un site avec les 7 vos 6 copains, là, vos 6 confrères.
Le site de l'AOP, du Cidre du Perche, donc cidreduperche.fr.
Hélène ?
Et pour aller voir Mathieu, c'est la cidrerie La Cour Vérane.
La Cour Vérane. Merci beaucoup, bravo. Donc, on va vous inviter dans quelques mois, quelques années, pour suivre un peu l'évolution de cette jolie cidrerie artisanale du Perche. Merci également à Wendy, à Philippe Forbach, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook ou le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h pour une nouvelle émission chez Nicolas Lecavis qui a été fondé en 1822 et qui fête cette année ses 200 ans. D'ici là, excellente suite de week-end. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et puis surtout respectez la plus grande des modérations. Salut.
Sud Radio Invino.